Bonjour à tous, bienvenue dans Carrément Immo, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Carrément Immo, vous le savez, c'est l'émission dans laquelle je reçois chaque semaine des experts, des intervenants qui viennent croiser leur regard sur un sujet bien précis. Aujourd'hui, on va parler de l'évolutivité des bâtiments. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est cette notion qu'on voit, dont on parle de plus en plus? Pourquoi rendre les immeubles plus adaptables et comment cela peut-il changer nos façons d'investir ou d'aménager les territoires? Et justement, j'ai deux invités pour en discuter avec moi autour de ce plateau, à l'origine d'un livre blanc, d'ailleurs, dont on va parler, que l'on va montrer. Florent Lemaire, bonjour, vous êtes directeur exécutif chez Arkéa Flex.
Bonjour, c'est bien ça, oui.
Et vous êtes déjà venu d'ailleurs sur notre plateau. Et Ludovic Malbet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes architecte et cofondateur de Mu Architecture. Bon, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet directement. Florent, qu'est-ce qu'un bâtiment évolutif concrètement? Même si on en a déjà parlé sur notre plateau, voilà, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs quelle est cette notion?
Alors, en deux mots, et je laisserai peut-être Ludovic compléter si besoin, mais l'évolutivité, c'est la capacité d'un bâtiment d'évoluer, s'adapter dans le temps aux évolutions de la société. Concrètement, dans le résidentiel, ça veut dire un bâtiment à l'intérieur desquels les logements vont pouvoir varier en taille pour s'adapter aux besoins des occupants, donc un T2 qui peut devenir un T3, puis un T4, puis un T5, et vice-versa dans le temps. Et à l'échelle du bâtiment, ça veut dire par exemple de concevoir une résidence étudiante de telle sorte à ce que dans 10 ans, dans 20 ans, elle puisse devenir une résidence senior.
Voilà, tout à fait, tout simplement. Alors, comment ça fonctionne au niveau de la conception des bâtiments? Est-ce que ça change, j'imagine, la conception, Ludovic?
Exactement. En fait, on pense à la conception des bâtiments dans le temps long. En fait, finalement, en tant qu'architecte, on apparaît dans le projet soit quand on le conçoit au tout début, quand c'est le premier bâtiment, soit à un moment donné pendant la réhabilitation d'un bâtiment. Et en fait, c'est un peu comme un organisme vivant à l'intérieur duquel on intervient et on arrive à développer le projet et le faire évoluer et le rendre possible les adaptations du projet.
Alors, quels éléments techniques ou structurels ça implique justement lors de la conception?
Alors, ça implique justement d'avoir des invariants, c'est-à-dire une structure qui est solide, qui est pérenne et à l'intérieur duquel on a quelques éléments qui peuvent bouger, changer, être flexibles, évolutifs.
Donc
dans
moins
le temps.
De murs porteurs, j'imagine.
Exactement. C'est une des solutions, c'est moins de murs porteurs, c'est permettre de recloisonner de façon différente, c'est créer un faux plancher pour pouvoir mieux gérer les fluides, c'est multiplier les portes d'entrée, par exemple, pour pouvoir multiplier les possibilités de taille de logement.
Voilà. Alors, je vais montrer votre livre blanc que vous avez ramené. Alors, quand on le lit, on comprend que l'évolution, j'y vais arriver, c'est pas juste une question de plan intérieur, de mur porteur, c'est aussi une vision stratégique face à l'obsolescence ou à la sous-occupation. C'est les grands sujets, les grands chantiers du moment et puis des années à venir, avec, on l'a vu, les bureaux vacants par exemple. Pourquoi cette approche est devenue si urgente aujourd'hui pour vous?
C'est un sujet qui est clé et qui l'est à différents égards sur différents cas d'usage. Je vais m'expliquer. Prenons le logement social. Aujourd'hui, le logement social est assez gravement sous-occupé. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui occupent seules des grandes surfaces, des T4, des T5. Ouais. Et dans le même temps, on sait qu'il y a beaucoup...
Et ça, on est sûr de ça? On a de la data là-dessus?
On a de la data là-dessus. On a l'INSEE qui suit le taux d'occupation des logements sociaux. C'est une étude qui date un petit peu aujourd'hui, mais qui doit être réactualisée. Mais en ordre de grandeur, la dernière étude qui a été faite, c'était 45% de sous-occupation dans le logement social. Quand on le compare au problème de la vacance, il faut savoir que le problème de la vacance dans le logement social, c'est plutôt 2%. Donc on voit bien l'écart de potentiel qu'il y a entre gérer la sous-occupation ou gérer la vacance. La sous-occupation, c'est vraiment un problème qui est clé et qui s'explique très simplement. On propose un T5 à une famille nombreuse et puis au fil du temps, les enfants s'en vont, le conjoint, la conjointe peut-être s'en va ou décède et on se retrouve avec une personne seule dans un T5. Cette personne seule dans un T5, vous voulez lui proposer de réduire la taille du logement, c'est très compliqué dans un bâtiment existant qui n'a pas été prévu pour être évolutif. Donc ça veut dire lui proposer un autre logement, un T2 ou un T3 ailleurs et dont le loyer va être équivalent au T5 qu'elle occupe. Parce que le loyer des logements sociaux dépend de l'année de construction de l'opération.
Oui, bien sûr.
Et donc on comprend pourquoi, avec ces règles-là, tout le parcours social est un petit peu figé. Oui. Et comment l'évolutivité qui permet de garder de changer la taille du logement sans changer d'adresse est une réponse à ce problème de sous-occupation.
Et finalement, c'est une sorte de réponse qui est presque non violente et très douce pour les occupants. Ouais. Et d'un point de vue social, on sait très bien que pour les personnes âgées, des déménagements, c'est des choses qui sont extrêmement vécues comme violentes.
Ouais.
Donc, c'est une façon d'adapter. Et il y a aussi les méthodes pour adapter. L'idée, c'est de pouvoir rendre adaptable, être adaptable au lieu de s'adapter à la structure de la construction. Et c'est le faire avec des éléments qui ne viennent pas toucher les parties porteuses, donc qui ne sont pas très lourdes d'un point de vue de l'impact des travaux.
C'est vrai. Alors, juste concrètement, pour qu'on s'imagine, là, vous parlez par exemple d'une personne âgée dans un logement social qui habiterait un T5. Bon, elle est seule. On comprend que c'est un peu trop grand pour elle. En plus, c'est fatigant pour se déplacer. Là, comment ça se ferait, du coup? Ça veut dire qu'on décloisonnerait, mais elle resterait dans son logement pendant...
Pas pendant les travaux, mais en termes de relogement nécessaire, une solution qui crée moins de désagréments permettrait d'éviter, par exemple, le relogement des voisins du dessous,
ouais.
Adjacent au logement qui est transformé. Évidemment, pendant les travaux, la personne est relogée ailleurs,
ouais.
Mais globalement, ce qui est intéressant, c'est que comme elle garde la même adresse, elle garde les mêmes voisins, mêmes commerces, les mêmes habitudes, le même quartier, tout
donc
simplement.
Elle est relogée pendant quoi? Pendant quelques jours, quelques semaines?
Pendant le temps des travaux. Ce sont des travaux... Alors, ce qui est important, c'est qu'on fait tout pour que les travaux soient les moins importants possibles. Ce sont des travaux exclusivement en filière sèche. Par exemple, il n'y a pas besoin de marteau-piqueur pour transformer un T5 en T3 plus T2. Et donc, ça peut être fait en quelques semaines, très, très simplement.
Alors, ce qui est très fort dans votre livre blanc, c'est que vous avez réussi à réunir tous les acteurs de la chaîne immobilière, donc les promoteurs, les bailleurs, les notaires, les élus, les investisseurs, toutes les parties prenantes. Comment c'est construite cette démarche collective, justement? Est-ce que ça a été simple ou est-ce que ça a été un peu, on va dire, laborieux de convaincre tout le monde?
Alors, laborieux, certainement pas. C'était vraiment une ambition forte.
Ouais.
À l'origine de l'idée de ce livre blanc, c'est vraiment une opportunité, c'est le village olympique. Donc, on a pour la première fois ce sujet d'évolutivité qui est, dont les médias mainstream parlent de ce sujet et n'importe qui entend parler de cette phase JO puis phase héritage. Et donc, on comprend un peu ce que c'est que l'évolutivité. Et donc, on s'est dit, on a un moment pour parler de l'évolutivité et en fait, il faut vraiment mettre autour de la table tous les acteurs. L'évolutivité, ça part souvent d'un élu, d'un aménageur, donc un décideur public, qui se dit que pour son territoire, il a besoin de cette évolutivité-là, pour des raisons démographiques qui sont parfois locales, qui sont parfois nationales. On a l'exemple qui est assez connu et souvent cité des résidences étudiantes. Le gouvernement a dit qu'il faut 75 000 places supplémentaires de logements étudiants d'ici 2030. Or, la population étudiante, dit l'INSEE, doit décroître à partir de 2030. Donc, on est en train de construire énormément de résidences étudiantes. Et demain, attention à ne pas créer l'obsolescence de ces résidences étudiantes. Si ces bâtiments sont construits classiquement, il va falloir...
Bon, après, on est loin encore du compte.
On est encore loin du compte. Mais c'est réussir à jongler avec les deux informations. On a besoin de logements étudiants. Et il ne faut surtout pas dire l'inverse. On a vraiment besoin de logements étudiants. Et on a besoin que ces logements soient évolutifs. Pour pouvoir demain être transformés en logement familial ou en résidence senior.
Ces acteurs qui ont montré patte blanche pour ce livre blanc, justement.
Mais c'est très intéressant. En fait, on sait très bien, pour que ce genre de projet puisse fonctionner, il faut que tout le monde soit impliqué en fait dans la démarche de l'évolutivité, parce que c'est une façon de voir le temps long. Et on a besoin d'avoir une compréhension de la part de tous les acteurs. Et effectivement, tout le monde s'intéresse progressivement à ce sujet-là et ça devient quelque chose d'essentiel.
Parce que vous avez cité le village des athlètes et c'est vrai que ça a été un bel exemple de communion, on va dire. Tout le monde a bossé ensemble, tout le monde a été dans la même direction, ça a fonctionné, les délais ont été tenus. Ça change de d'habitude. C'est vrai que, arrêtez-moi si je me trompe, mais tous les acteurs travaillent un peu chacun de leur côté. C'est peut-être ça aussi le sujet.
Et puis, on a depuis ce matin l'appel d'offres qui est sorti pour le JO de 2030, cette fois-ci. De nouveau,
sport
un village.
D'hiver.
Sport d'hiver.
Ouais.
Avec de nouveau un village olympique qui a été annoncé dans la ville de Nice. Et de nouveau, cette problématique de phase JO et phase héritage. Et effectivement, c'est un sujet qui va embarquer, et ça se comprend très facilement, l'ensemble des acteurs. là où, d'un point de vue système, aujourd'hui, on a souvent un promoteur qui construit, mais qui n'est plus là pour gérer dans le temps le bâtiment, ben, on comprend bien qu'avec l'évolutivité, il faut faire un lien entre le promoteur qui construit pour vendre, avec l'architecte qui est à l'origine du projet, un aménageur peut-être qui a eu ce besoin, ce souhait à l'origine, et puis le gérant du bâtiment, qui peut être soit un bailleur social, qui peut être un syndic de copro, qui peut être un gérant de résidence étudiante, qui lui va être amené à opérer les transformations. Et donc, il faut réussir à faire ce lien, et c'est pour ça que nous, on a créé ce métier, on est le seul acteur aujourd'hui qui pur player du sujet de l'évolutivité. Mmh. On a des brevets sur le sujet et notre métier consiste justement à faire le lien entre tous les acteurs pour que l'évolutivité soit opérationnelle.
Les élus, à quelques temps des municipales, est-ce qu'ils sont faciles, difficiles à convaincre? Est-ce que ça a changé la donne par rapport à ces sujets-là?
Je pense qu'ils s'intéressent à ces questions d'évolutivité, notamment qu'ils y sont confrontés très concrètement. Par exemple, les écoles, il y a eu un grand boom de besoins d'écoles dû à la démographie. Et puis, petit à petit, on se rend compte en ce moment qu'il y a certaines écoles qui ferment, des classes qui ferment. Et en fait, ces changements de démographie, ils y sont confrontés directement pour leur propre projet. Donc, ils se projettent forcément dans la question des logements et de l'adaptation des logements à leur parc dans leur ville.
Donc c'est plutôt positif.
Plutôt positif,
oui. Ouais, vous voulez
dire. Oui, je voulais en effet aller dans ce sens-là. C'est une façon pour un promoteur, par exemple, de faciliter l'obtention d'un PC pour gagner un concours. C'est vraiment quelque chose qui va être très apprécié des élus qui ont été échaudés par des projets qui sont devenus obsolètes dans le temps. Que ce soit des écoles ou des immeubles de bureaux, on a tous des exemples de bâtiments qui ont été conçus et qui sont sous-occupés ou voire complètement vacants aujourd'hui. L'évolutivité, c'est vraiment une réponse à ce problème-là.
On va parler des freins maintenant, parce qu'il y en a. Quels sont les freins majeurs à l'évolutivité? Je vais y arriver, décidément. Peut-être le coût, pour commencer?
Alors, le coût fait partie de la discussion, mais je ne dirais pas que c'est un frein. Quand on conçoit un bâtiment dès l'origine, si on est vraiment en phase de conception du projet et qu'on anticipe les sujets techniques liés à l'évolutivité, ça ne représente pas un surcoût, ou en tout cas, c'est un surcoût vraiment à la marge de l'ordre entre 1 et 2% du coût de construction, donc des choses gérables. Ouais. Et il faut savoir qu'un bâtiment évolutif, c'est peut-être aussi quelque chose qui peut se valoriser dans le temps, donc c'est un surcoût, mais si c'est une en sortie également une valeur supplémentaire, c'est neutre pour le promoteur.
Ça alors c'est quoi des... C'est réglementaire, assurantiel, culturel?
Je pense qu'il y a déjà les habitudes de production. On a eu l'habitude de produire du logement comme une production avec des modes de fonctionnement, des murs de refend justement qui cloisonnent pour des questions d'optimisation ou de performance, et en fait on se rend compte que cette performance elle manque de robustesse et d'adaptation possible. Et puis donc il y a des habitudes de production, des habitudes culturelles, et effectivement aussi quelques problématiques avec les réglementations et les normes. Ça peut être tout simplement les normes électriques ou ce genre de choses qui peuvent freiner un petit peu qui peuvent freiner l'évolutivité, mais c'est en train de changer en fait.
Pourquoi? Parce que ça prendrait plus de temps, c'est un peu plus
non,
compliqué.
C'est certaines obligations.
C'est des habitudes en fait.
C'est des habitudes en fait. C'est-à-dire qu'on a fonctionné avec un modèle dont on avait l'impression qu'il fonctionnait bien pendant un certain temps, mais finalement, certaines habitudes sur le fait d'avoir, obligé à mettre un éclairage au centre de la pièce. Dans un logement, et c'est pas forcément adapté à des systèmes évolutifs d'un point de vue des réseaux, par exemple.
Donc changer les mœurs, faudrait quoi? Des formations, de la pédagogie
Eh bien, en fait, c'est la norme NFC 1500 qui réglemente l'électricité. C'est peut-être une des normes qu'il faudrait faire évoluer.
D'accord.
Mais en fait, la question des normes, elle se pose aussi, y compris d'un point de vue de la certification des logements.
Pour intégrer cette approche, justement, dans les appels à projets, les cahiers des charges, les PLU.
Et justement, on a une prise de parole de Jean-Frédéric Bailly dans le Livre blanc, et qui parle de la mesurabilité de l'évolutivité. Et c'est un enjeu clé, parce que quand aujourd'hui un décideur public, un maire ou un aménageur souhaite passer un appel d'offres en disant « j'ai besoin que mon bâtiment soit évolutif », en fait, l'évolutivité aujourd'hui est étant difficilement mesurable, on peut avoir autant de solutions que d'acteurs qui proposent de sujets, et on ne sait pas si tout fonctionne aussi bien. Et donc, le fait que Sercal se positionne avec une mesure de l'évolutivité, donc qui va être opérationnelle très prochainement, ça veut bien dire que le secteur se structure aussi autour de cette thématique-là.
Pour conclure, si vous deviez faire passer un message clé à ceux qui nous écoutent, aux professionnels, aux particuliers aussi, hein, qui nous écoutent, quel serait-il ?
Ben, je pense qu'il faut passer de solutions où on doit s'adapter, c'est-à-dire subir. La réhabilitation, c'est essentiel en architecture et ça doit vraiment rentrer dans un cadre de la conception. Et en fait, c'est de passer de s'adapter à être adaptable. En fait, de rendre la possibilité de s'adapter, et c'est comme ça qu'on va construire aussi la vie des habitants de demain, en fait. On travaille pour ceux d'aujourd'hui, mais aussi pour ceux de demain.
Et ben, peut-être un mot pour dire que depuis des années, tout le secteur s'est structuré avec une spécialisation, le résidentiel, les immeubles de bureaux, spécialisation pour optimiser d'un point de vue financier chacun de ces bâtiments-là, optimiser, enfin sur tous les aspects d'ailleurs, hein, chacun de ces bâtiments-là. Peut-être qu'on est dans un temps où il faudrait faire un pas de recul par rapport à ces sujets-là et se dire que finalement, un bâtiment dans le temps doit pouvoir évoluer dans ses usages et que pour la robustesse du modèle, c'est important aussi de faire un pas en arrière et de se dire, bah, qu'est-ce qui se passe dans le temps long de l'immobilier et repenser le temps long de l'immobilier. Les 10 ans, les 20 ans, les 40 ans de gestion du bâtiment, se projeter, tout simplement.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Et n'hésitez pas à aller consulter le livre blanc qui est sur Internet. Hein,
qui est sur Internet, qui est disponible sur notre site Internet, sur Arkeaflex. Vous le trouverez sans problème.
Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Carrément Immo.